Autre qualité, le prophète, c'est quelqu'un de chargé. Donc chargé parce qu'il a le manteau de Dieu. Le manteau de Dieu, ça va être les grâces prophétiques. Ça va être toutes les grâces. À chaque fois que le prophète exerce ses charismes, eh ben, il va accumuler des grâces sur son manteau. Soit parce que les gens font preuve d'incrédulité, soit parce que quand on aide quelqu'un, on a un message à donner. Eh bien, il y a une partie du message, en réalité, qui est pour nous. Le Seigneur ne donne jamais un message qui est unilatéral. C'est toujours quelque chose qui va nourrir tout le monde, quoi. Voilà. C'est ce petit jeune homme qui a donné les 5 pains et 2 poissons. C'était pas un don total. C'était un don total au départ parce qu'il s'est dépossédé, mais il a dû bien se nourrir ensuite. On peut imaginer. C'était pas uniquement je donne et puis après je vous regarde manger, quoi. Il est chargé, il a le manteau de Dieu, c'est la force de Dieu. On a vu que c'était un peu une condition sine qua non pour rentrer dans la famille de Dieu, c'est-à-dire pour Jacob, tant qu'il n'avait pas cette bénédiction de son père et avec ce manteau que lui avait donné sa mère pour ressembler à son frère, qui était un petit peu la clé pour pouvoir être reconnu comme fils de Dieu et fils de Dieu proche. Voilà, donc ça va être le baptême, ça va être les grâces, ça va être et on a besoin de ces grâces-là pour avoir ce charisme prophétique, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui parlent de super-héros, Iron Man qui a une armure, etc. Mais en fait, ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est que la grâce prophétique, c'est un peu la même chose. C'est que ça va être notre petitesse qui est entourée par la grâce et qui va être une armure impénétrable, hein, dont parle saint Paul à plusieurs endroits dans la lettre aux Thessaloniciens et aux Éphésiens, où il va dire c'est la cuirasse de la justice, le casque du salut, de l'espérance du salut, etc., le ceinturon de la force. C'est toutes les grâces qui permettent de tenir, alors que normalement on ne pourrait pas tenir, on devrait être écrasé, quoi. C'est être au cœur de l'Alliance, c'est être revêtu par Dieu des bons habits qui font qu'on avance. Et alors, on avait vu que le chameau, il portait 400 kilos, et c'est vrai qu'un prophète est chargé, il connaît beaucoup de choses, il reçoit beaucoup de richesses et de forces du Seigneur, et donc il y a cette tentation de se glorifier de ça, de parler un peu trop sur certaines choses qu'on reçoit, et puis de ne pas faire la part des choses en disant, le Seigneur m'a donné ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'en parle à tout le monde, voilà. Chose fait surprenant, Marie n'a pas dit à Joseph qu'elle était enceinte, parce que l'Esprit-Saint ne lui avait pas demandé. Et ça a dû être une souffrance pour Joseph d'avoir ce temps un peu de battement où il se disait, elle est en train de s'arrondir là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je me sens pas digne de... Et puis, je me dis, je vais peut-être la répudier parce que il s'est passé quelque chose et je ne vois pas. Et on voit bien... Il y a déjà une chose, peut-être par rapport au charisme prophétique pour une femme, que quand la femme est taite sur certaines choses, elle va placer l'homme dans une situation de croissance spirituelle. C'est une forme d'épreuve pour l'homme. Pas forcément parce que l'homme est pécheur d'ailleurs, ça peut être simplement parce que l'homme, c'est le moment où il y a une petite épreuve qui lui arrive dessus et où il monte d'un cran parce que il va passer cette épreuve avec succès et puis à un moment ça va se débloquer et puis l'information va être révélée, ce qui était caché va être révélé et l'homme va à nouveau chanter la gloire de Dieu et va, vous voyez, donc ce chargement important du prophète doit être déposé pour passer la porte. Voilà, c'est le chameau qui se débatte. Et il y a deux moments principaux où on dépose ses grâces prophétiques au pied du Seigneur. C'est le matin, quand on se réveille. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à ne pas m'approprier ce que tu m'as donné. Alors je te le remets complètement. Je te laisse porter mon joug. En fait, quand je communie, c'est un exemple. Hein. Seigneur, je te donne cette Eucharistie. Je donne par les mains de la Vierge Marie parce que je ne m'approprie pas Dieu. Je reçois Dieu et je confie à mon ange gardien le soin de former mon cœur à la Vierge Marie, au Saint, pour ne pas mettre la main sur Dieu, quoi. C'est vraiment quelque chose. Donc le matin, c'est vraiment le moment par excellence où on remet les choses. Il n'y a pas besoin d'une longue prière forcément. Hein. Rien que de dire, Seigneur, Père, je me remets entre tes mains et je te remets toutes les grâces que tu m'as données, c'est déjà énorme en fait. Et puis après, c'est dans les situations où Dieu le demande. Voilà, il y a des situations concrètes où Dieu va demander de remettre parce que on avait prévu telle ou telle chose et finalement c'est pas nous qui le faisons et alors qu'on avait préparé quelque chose parce que nos plans sont contrecarrés par les événements, par quelque chose qui vient nous perturber et on remet tout ça au Seigneur. Voilà, on va pas user de notre grâce prophétique là, tant pis, on ne va pas agir comme on aurait souhaité, tant pis. Et c'est une manière concrète de se débattre comme le chameau qui doit passer cette porte étroite. Et c'est pas que quand on monte au ciel, c'est aussi dans toute la vie. En fait, le Seigneur met devant nous des portes étroites. Et c'est une porte, c'est comme si on montait un étage, en fait. Hein. C'est une autre image de l'escalier, de l'épreuve qui nous arrive dessus et qui nous permet de croître spirituellement. De se décharger sur le Seigneur et de remettre le manteau que le Seigneur va donner. Autre trait, c'est d'être complètement donné aux autres. Voilà, comme le chameau qui perd tous ses poils une fois par an pour donner aux autres ses poils qui vont être tissés pour fabriquer des manteaux, etc. Voilà. Je trouvais ça drôle, moi, ce chameau qui est cette bestiole que le Seigneur a fait en sorte qui, comme des arbres qui vont perdre leurs feuilles, comme le grain de blé qui meurt, ben voilà, je suis capable de tout remettre au Seigneur, même mon fils aîné, même les trucs les plus extraordinaires, Seigneur, que tu me fais faire, je te les donne complètement. Ça rejoint un peu le point précédent. Je meurs à moi-même et c'est d'autres qui vont se nourrir. Ça va être extraordinaire parce que la fécondité va passer par là. Donc complètement donné aux autres. Autre trait prophétique, c'est quelqu'un qui reste toujours juste, fidèle et prêt. Ça, c'était la ceinture, on avait vu, hein, c'était le fait de se ceindre les reins pour, quand on a une tenue ample comme les orientaux, et ben on a quelque chose qui permet qu'on soit cintré pour être libre de nos mouvements, et dès que le Seigneur va nous appeler à quelque chose, de réagir tout de suite. Donc ça va être d'avoir une certaine sobriété dans la nourriture, ça va être au niveau du métier aussi, le Seigneur va souvent demander aux prophètes d'avoir des métiers où ils vont avoir quand même un petit peu de temps pour faire autre chose, donc pas un ouvrage qui soit complètement harassant où on travaille aussi la nuit et le week-end, pas un ouvrage donc, du coup trop incompatible avec le repos que demande l'emploi, parce qu'il faut des temps de désert suffisants, donc voir les brimades qu'on reçoit dans notre boulot quand on a envie de faire des choses plus intéressantes et puis que du coup on a du temps, voir ça comme une grâce, le Seigneur nous appelle à être prophète. Et puis par rapport à la continence, de faire attention, de surveiller ses regards, d'avoir une chasteté dans son état de vie. Et la Bible ne préconise pas forcément la continence absolue pour les prophètes, hein. Elle dit un certain nombre de choses, mais c'est d'avoir une pureté dans nos rapports sexuels, et ça c'est pas que dans ce qui est charnel, c'est aussi dans nos pensées intérieures, hein, comme l'a dit Jésus, puisque un homme qui regarde une femme de la mauvaise manière commet déjà l'adultère dans son cœur. Voilà. Et si on dit, on regarde à l'inverse, une femme qui provoque un homme à être adultère, qui par son parfum excessif, son maquillage excessif, son habillage excessif provoque un homme à l'adultère, et comme quelqu'un qui provoque un scandale, et il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule au cou. Voilà, c'est-à-dire que la parole est cinglante et pour les hommes et pour les femmes. Hein. Vous êtes adultère et vous provoquez l'adultère, on pourrait vous attacher une meule au cou. Voilà, il faut mettre ces textes en parallèle parce que c'est des choses vraiment qui tuent la grâce prophétique. Donc cette ceinture qui permet d'être toujours prêt, c'est-à-dire d'avoir les oreilles suffisamment ouvertes, d'avoir l'œil spirituel suffisamment ouvert pour intégrer les situations que le Seigneur nous donne, voilà, les rencontres que le Seigneur nous donne de faire. Je me tiens prêt parce que je ne parle pas trop, et du coup ce silence va être propice à une personne qui se confie à moi, à une discussion. Voilà, c'est une manière d'être prêt. Autre trait, le prophète est un éternel persécuté. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à rétablir la vraie paix, c'est-à-dire non pas une absence de guerre, non pas des arrangements qui font que bon, tout le monde se tait, mais à ce que les choses soient justes, à ce que les choses bonnes soient connues, à ce que les choses mauvaises soient connues comme mauvaises pour qu'on s'en écarte. Voilà, donc c'est logique qu'un prophète soit persécuté même de la part de sa famille, hein. On voit le prophète Jérémie, Jésus. Et donc on disait aujourd'hui que la persécution pour les prophètes venait notamment beaucoup de personnes soit qui avaient contracté une alliance avec la mort, des gens qui font de la sorcellerie, des gens qui sont francs-maçons, enfin des gens qui sont allés assez loin dans le mal en fait, même sur des choses dont on parle pas forcément, mais spirituellement c'est des choses assez graves, c'est souvent ces gens-là qui vont exercer les attaques les plus importantes. Il peut y avoir des personnes qui sont blessées par des chrétiens, voilà, notamment, ou qui sont en révolte avec la foi, des athées qui vont tirer tout le temps sur les chrétiens parce qu'ils ont un compte à régler, alors que d'autres diraient, je m'intéresse pas au christianisme, j'étais déçu, mais mais je vis en bonne entente. J'ai entendu encore quelqu'un qui disait, moi, mon collègue, il fait exprès de ne pas manger de poisson le vendredi parce qu'il est ça l'énerve les chrétiens et les traditions chrétiennes, quoi. Voilà. C'est ce genre de truc, finalement, qui exerce des persécutions dans le quotidien. Puis on a aussi, dans le monde moderne, la théologie, le monde de la théologie, malheureusement, il y a une forme d'attaque, parce qu'il y a une idée malheureusement répandue, selon laquelle le prophétisme doit être combattu, parce que le rôle du prophétisme serait de contredire la tradition. Et ça, c'est une idée fausse, qui est vraiment fausse, parce que le rôle du prophétisme, c'est simplement de passer un message de la part du Seigneur. Voilà. C'est pas de contredire la tradition, ou de créer d'autres traditions. Parfois, alors, ça peut être de contredire une mauvaise loi, mais en général, le Seigneur lui-même fait en sorte que les prophètes passent par des directeurs spirituels et n'outrepassent pas les directives qu'ils ont reçues. Le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a démonté le calvaire de Pontchâteau parce que son évêque le lui a demandé. Et le Seigneur, c'était un grand prophète cet homme-là, mais le Seigneur ne l'a pas contredit, parce qu'il y avait une fécondité dans le fait d'obéir, voilà. Et le monde de la théologie aujourd'hui, et je disais malheureusement, cet nombre de prêtres, parce que souvent les prêtres sont théologiens, ne sont pas sensibles au prophétisme. Bon, ils vont dire, les mystiques, c'est des gens un peu illuminés, et les révélations privées, on appelle ça des révélations privées un peu, il faut s'en méfier, et on n'en a pas besoin. Et moi je pense que c'est tout l'inverse. Jésus dit à cette personne qui souffre les douleurs parce qu'il est dans une fournaise, parce qu'il n'a pas abreuvé le pauvre Lazare devant chez lui, et il dit « Je ne vais pas avertir tes enfants parce qu'ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. » Hein, il n'a pas dit la loi, les prophètes et les livres de sagesse. Sinon, ça aurait été l'Ancien Testament. C'est la loi et les prophètes. Donc ça veut bien dire que ça désigne d'abord la tradition. Voilà, toute la tradition juive qui s'est accomplie en Jésus-Christ, toute la tradition de l'Église avec ce que disent les papes, et il faut toujours être fidèle à ça et tenir ça comme un roc, et les prophètes, c'est-à-dire tous les gens à qui Dieu parle pour pouvoir avertir et dire attention, là-dessus, on n'est pas bon. Je sais pas, moi, Paul a eu une parole prophétique en disant à Pierre devant tout le monde, en gros, tu n'as pas la même attitude quand tu manges avec les juifs et quand tu manges avec les païens. Et du coup, tu fais peser des coutumes juives sur tout le monde alors que toi-même, tu n'es pas juste. Voilà. Et en fait, effectivement, il s'attaquait un petit peu à la tradition là-dessus, mais c'était pas vraiment... Il montrait plutôt quel était le bon accomplissement de la tradition, comment interpréter d'une manière juste la tradition. Jésus a été persécuté comme prophète parce que il disait que le certificat de répudiation n'était pas une loi bonne en soi. C'était une loi qui, dans un certain contexte, pouvait s'entendre parce qu'il fallait défendre une femme, juridiquement, une femme quand un mariage était rompu. Mais Jésus a bien dit, attention, cette loi n'est pas bonne en soi. C'est une loi plutôt qui est une concession parce que, dans certaines situations, on est bien obligé de mettre en place des lois pour gérer des situations moins bonnes. Et c'est vrai qu'un certain nombre de prophètes aujourd'hui peuvent être persécutés parce qu'ils vont mettre en lumière des choses. Et on va dire, tu t'opposes à la tradition, parce que beaucoup ont un zèle par rapport à la tradition. Et aujourd'hui, les théologiens sont malmenés, un certain nombre de prêtres sont malmenés aussi, parce que c'est très dur d'être prêtre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a besoin qu'on prie beaucoup pour eux. Et un des trésors qu'ils vont tenir, c'est de dire, la tradition c'est notre trésor, et tout ce qui s'attaque à la tradition, on va le défendre. Sans forcément dire, comme Marie, ce que tu me dis, je le garde. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je vais le garder dans mon cœur, je vais le méditer, et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Un tel m'a dit ça. Et voilà. Et je pense que la bonne attitude, c'est d'abord ça, c'est de dire, il y a un truc qui me dérange dans ce qu'on m'a dit. Je vais d'abord le confier dans la prière pour voir si, Seigneur, qu'est-ce que t'en dis, quoi? Est-ce que cette personne a raison d'attaquer le pape, la tradition, tout ça? Voilà. On devrait jamais dire non, en fait. C'est, voilà. Et là, j'en viens à l'idée d'après. Un des traits du prophète, c'est d'être toujours à l'écoute des personnes que le Seigneur lui envoie. Voilà. D'être ouvert à la critique, à la contradiction. Il y a un exemple éloquent dans Jérémie 28, où il y a le prophète Anania qui vient dire une prophétie inverse de Jérémie, qui brise le joug devant tout le monde en disant « Regardez, le Seigneur va briser l'oppression de Babylone et on sera libre, etc. » Et Jérémie dit « Ah bon ? Ah d'accord, bon, on verra si ça s'accomplit. » Et c'est parce que il entendait le Seigneur tous les jours, et il s'est dit, après tout, le Seigneur, il est assez fou pour dire l'inverse, juste pour voir si... parce que c'est peut-être une autre prophétie qui s'applique dans un autre contexte, etc. Et puis, dans les faits, le Seigneur a réglé ses comptes avec Anania, parce qu'il est mort très peu de temps après. Et puis, Jérémie a eu gain de cause, c'est-à-dire que ce qui était caché a été révélé, c'était un faux prophète. Donc, un prophète doit se dire, si un tel est un faux prophète qui est en train de me parler en ce moment, le Seigneur lui réglera son compte. C'est pas à moi de lui régler son compte en séance. Je dois d'abord avoir l'humilité de dire, peut-être que tu as raison. puis on va, je vais le confier dans la prière, quoi. Donc pour nous, ça va être nos prophètes, ça va être nos enfants, les personnes dans notre équipe, ça va être les gens pour lesquels c'est le plus désagréable de recevoir des critiques. C'est toujours comme ça. Voilà. Pour un prêtre, ça va être ses paroissiens. Pour une mère supérieure, ça va être les femmes de sa communauté. En fait, on va tous être prophètes les uns pour les autres, et surtout les gens, par exemple, qu'on va pas reconnaître comme des gens hyper intello, etc. Bah, ces gens-là sont souvent des prophètes. Ils vont souvent dire des choses qui sont extrêmement riches, parce que le Seigneur va parler à travers eux. Et c'est une des manières dont le Seigneur écrase la tête du serpent. C'est vraiment une faiblesse qu'il utilise, quoi, de parler par les prophètes. Voilà, le prophète est un signe par ses faits et gestes. C'est-à-dire, plus on avance vers Dieu, plus on grandit en sainteté, plus même nos déboires vont être utilisés comme un signe pour convertir des gens. Voilà. Je parlais de Pierre qui coupe l'oreille, voilà, et puis il a dû dire je suis désolé, et puis Jésus a guéri le. Voilà, et c'était un signe. Et on a vu un certain nombre d'exemples, notamment Ézéchiel, hein, qui, il faut lire, hein, les premiers chapitres d'Ézéchiel, où il est un signe permanent, il est un signe vivant, juste en le regardant, et hein, on va pouvoir trouver Dieu dans cette personne qui fait des choses complètement parfois saugrenues. Il est dit, nous sommes des signes et des présages pour Israël, hein. On a sur la paroisse un curé qui parfois dérange parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup et qui va demander des choses surprenantes. Moi, je trouve que c'est extrêmement prophétique. Il a une grâce particulière pour dire des choses que je trouve, quand on les fait, ça, c'est extraordinaire, en fait. Et en fait, moi, je pense vraiment que dans la prière, on reçoit des choses très belles. Et moi-même, en tant que responsable de service, je peux témoigner que j'ai reçu beaucoup de grâce à m'exercer, à faire ce que demande le curé, même quand c'était des choses pour lesquels je ne comprenais pas du tout la logique de ce qu'il demandait. À chaque fois, il y a eu beaucoup de grâce. Et à chaque fois, je me suis dit, bah, Seigneur, vraiment, tu as touché cet homme, et merci, parce que là, ce coup-ci, j'ai eu le courage de faire ce qu'il demande, et sans discuter. C'est pas facile, en fait, hein, quand c'est des choses vraiment qui ne nous... On se dit, bon là, vraiment, j'ai pas envie. Voilà. On parlait, dans la nourriture du prophète, des sauterelles, d'arriver à se nourrir de choses, même des choses négatives. On parlait des sauterelles parce que le prophète va réussir à faire des choses alimentaires avec des choses difficiles qui lui arrivent. Donc, une personne mauvaise qui l'entoure, il va s'exercer à dire, Seigneur, montre-moi la beauté de cette personne. Et ça va me nourrir, ça va me donner suffisamment de paix intérieure pour que j'arrive à survivre dans mon travail avec cette personne, par exemple. Ou à survivre avec les bugs informatiques. Voilà, ça aussi, c'est une forme de sauterelle, c'est-à-dire que c'est des éléments négatifs, des dérèglements de la société, des dérèglements des rapports humains. Quand on va les accepter et les aimer pour ce qu'ils sont, même si c'est pas des choses agréables, un bug informatique c'est pas quelque chose d'agréable, et ben on va pouvoir s'en nourrir et le transformer en quelque chose de positif, comme une occasion d'aider un collègue, comme une occasion de prendre un moment de méditer pendant qu'il y a le petit sablier ou le rideau bleu sur notre écran d'ordinateur. Voilà, c'est des sauterelles dont vont se nourrir les prophètes. Dernier trait prophétique, et après je m'arrête là sur cette... C'est très prophétique, c'est qu'il est voyant, donc c'est-à-dire qu'il dit et fait ce que Dieu lui montre. Donc ça veut dire que c'est l'aveuglement qui va être la pire chose qui empêche d'être prophète, parce qu'on est un mauvais guide, hein, et on fait tomber les autres aveugles dans un trou. Donc ce qui provoque l'aveuglement, c'est les récriminations, surtout, hein, c'est-à-dire quand on émet un avis négatif sur une situation que Dieu nous présente. Voilà, Seigneur, elle est nulle, la vie que tu me donnes, Seigneur, c'est nul, il y a une panne de tram, Seigneur, j'en ai marre, Seigneur, voilà. Ça, c'est une forme d'aveuglement. Et puis d'autres formes d'aveuglement, bah, ça va être des péchés graves, et en particulier les péchés d'impureté. Voilà, c'est les choses qui, en fait, nous perturbent et font qu'on va... On va avoir un jugement altéré et que parfois nos avancées vont être mauvaises parce qu'on va... On va avoir un genre de voile qui sur nos yeux, en fait. Thomas d'Aquin, il parle de ça, hein. Il parle de l'aveuglement et ce lien entre... en fait, la première marche, ça va être je me nourris trop, par exemple, et puis je commence à faire des petites critiques, etc. Et puis la deuxième marche, ça va être les gros péchés du genre l'adultère, l'impureté sexuelle, des choses plus importantes. Disons que ça va altérer suffisamment notre jugement pour qu'on se permette de s'énerver contre les autres, d'être violent, d'exacerber des jalousies, etc. Voilà. Bon, donc un faux prophète, À l'inverse du prophète, c'est quelqu'un qui transmet des pensées d'impureté, hein, des éclats de colère qui provoquent le trouble ou l'agitation. Ça, c'est un signe d'une personne qui peut avoir des choses graves à régler dans sa vie. Des personnes notamment qui ont des paroles obscènes, il faut prier pour elles, parce que souvent il y a des choses non réglées, peut-être au niveau de la sexualité ou voilà, à d'autres niveaux. Et Paul préconise de se séparer de ces gens-là, en fait. C'est-à-dire de ne pas cultiver un lien d'amitié fort avec ces gens-là, ou un lien de proximité qui fait qu'on serait contaminé, en fait. Parce que spirituellement, on est chargé par des esprits mauvais. On entretient un lien avec des esprits mauvais, et ces esprits mauvais qui nous entourent vont contaminer. Voilà. Donc il faut s'en éloigner et faire ce qu'il faut pour, si on trouve des occasions, dire attention, là tu t'égares, ou y aller à plusieurs, ou le faire avec les étapes que donne le Seigneur, hein, tu vas tout seul, vous y allez à plusieurs, et puis tu préviens toute la communauté, et s'il ne veut toujours pas, tu mets à part la personne, c'est-à-dire tu prends la disposition nécessaire pour ne pas que cette personne te gâte tout le cajot de pommes, quoi. Voilà.